Bonsoir, merci, merci d'être là ce soir. Merci pour plusieurs choses. Déjà pour tous ceux qui ont rempli un questionnaire, merci beaucoup parce que ça fait partie un petit peu de mon travail de doctorat. J'avais besoin de faire ça. Merci à la pastorale, certains donc qui ont entendu un petit peu de mon projet depuis quelques mois. Aussi à l'église de Prévesaint, Jean-Paul qui est pas là ce soir, et tous ceux qui donc qui font partie du conseil, merci pour votre accueil. Merci donc à tous ceux qui sont venus ce soir. Merci pour votre participation dans ce projet. Si vous avez des questions pendant les séances, n'hésitez pas à me les poser. Je ne suis pas un maître du sujet. Je suis, comme vous, un étudiant de la Bible. J'apprends toujours de nouvelles choses en la lisant. Et surtout ce thème, donc qui est très vaste, le culte, la louange, l'adoration. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits dessus. Ce n'est pas une science toute faite. Et donc on est là pour découvrir un petit peu ensemble, regarder certains aspects de ce grand thème. Ma mère ne m'a jamais parlé en français, donc le français n'est pas ma langue maternelle, et même si en tant que musicien, j'ai appris à l'âge de 17-18 ans à commencer à imiter les Français pour améliorer mon accent et essayer d'enlever tout ce qui était irlandais. Je viens de passer 8 ans en Irlande, et donc jusqu'au mois d'août de l'année dernière, j'ai très peu utilisé le français, donc il y aura des anglicismes, malheureusement, et je vous demande donc la patience, et avant. Ceci disant, j'ai quand même passé un peu de temps avec Jean-Marc Muller, qui m'a aidé dans la traduction de tout ce que je vais vous partager ce soir. Donc s'il y a des fautes de français, je peux vous dire où il habite, pas trop loin d'ici. Mais on est amis, donc c'est bien. On a beaucoup rigolé ensemble. Alors, 4 soirées. Donc, ce soir, un thème assez... Donc, c'est un peu plus court ce soir. C'est-à-dire, c'est un peu plus moi qui parle et vous qui écoutez, parce qu'on va essayer de couvrir pas mal de terrain. Je m'excuse déjà à l'avance pour cela. Je vais essayer de parler pas trop rapidement. N'hésitez pas à me dire on stop à l'instant ou ralentissez un petit peu. On aura un temps de questions et d'échanges à la fin on verra l'heure, parce que j'aimerais quand même terminer bien à 10h. S'il le faut un petit peu au début de la semaine prochaine. La semaine prochaine, par contre, ce sera très différente. Donc, je vous avertis à l'avance au cas où vous dites oh là, c'est lourd. La semaine prochaine, il y aura beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de questions pratiques sur la fonction des éléments dans le culte, et puis quelques questions pratiques. Troisième séance, c'est très pratique, c'est au niveau donc des façons différentes de faire la lecture de la parole dans le culte. Et puis le quatrième, donc c'est un petit peu revenant à regarder donc le thème du calendrier ecclésial. Voilà. Alors, je vais faire une petite introduction et puis on aura un tout petit travail à faire en groupe et je vais vous dire comment ça va se passer. Voilà. Ok, je vais vous montrer donc quelque chose que j'ai eu d'un ami américain récemment. 10 raisons pour faire opposition au nouveau courant musical dans l'Église. Voilà. Oui. Ah oui. Alors, non, justement, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Je peux vous envoyer par email mes notes en entière. Donc, si vous voulez pas faire des notes, ou si vous... Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de références. J'ai également des notes supplémentaires sur le contenu du culte, ce qui va être une partie. Donc, voilà. Donc, soyez libre que si vous ratez quelque chose, vous avez envie d'écouter ou de dormir. À ce moment-là, je vais changer un petit peu ma voix. Alors, n'hésitez pas à être cool. Et voilà, bonne question. Merci de l'avoir posée. Ok. Alors, dix raisons pour faire opposition au nouveau courant musical dans l'Église. C'est un ami américain qui me l'a envoyé. Quelqu'un dit, c'est trop nouveau, c'est comme une langue inconnue. Ce n'est pas aussi mélodieux que le style le plus établi. Il y en a tellement de chants qu'il est impossible de les apprendre tous. Cela dérange beaucoup de personnes et fait en sorte que des gens se comportent d'une mauvaise manière. Il y a trop d'accent mis sur la musique et les instruments plutôt que sur les paroles chrétiennes. Les paroles sont souvent mondaines, voire blasphématoires. On n'en a pas besoin parce que des générations sont parties au ciel sans en avoir besoin. Cela monopolise le temps du chrétien et l'encourage à se rentrer tard à la maison. Ces nouveaux musiciens sont de jeunes arrivistes et plusieurs d'entre eux sont des personnes lubriques et dissolues. Adapté d'une déclaration visant l'usage des cantiques en 1723. Alors, juste pour vous montrer que le thème de la louange n'est pas... l'idée du conflit n'est pas quelque chose de nouveau. Quelque chose a-t-il changé depuis ? Un commentateur, un écrivain, a dit que les conflits qui portent sur la forme du culte constituent une plaie ecclésiale universelle. Ceux qui vont régulièrement à l'église expriment leur mécontentement concernant la façon dont la culte se déroule et s'interrogent à propos du but du culte. Donc, voilà un petit peu pourquoi notre thème, le thème donc du culte, de l'adoration, de la louange, est assez important aujourd'hui. Dans le monde anglophone, ce qu'on a appelé, il y a 35 ans, on va dire, jusqu'il y a 30 ans, ce qu'on appelait le chant, là je l'ai laissé en anglais juste pour vous montrer un petit peu d'où ça vient, est devenu au début des années 80, au fin des années 70, ou 70, le chant est devenu la louange. Et puis, dans les années 90, ça a passé de la louange au mot worship, de praise à worship. Worship, ça englobe pour nous en anglais le culte, l'adoration, rendre un culte, c'est un verbe comme un substantif. Pour montrer que la question du style de musique, et vous allez peut-être étonné qu'on ne va pas beaucoup en parler ce soir, mais la question du style de musique a créé un changement dans la réflexion et dans la terminologie. Il y avait l'histoire d'un pasteur qui a visité une église il y a 15 ans, et lorsqu'on a terminé les chants et on a mis les guitares par terre, le pasteur de l'église a dit « Bon, maintenant, nous allons commencer le culte ». Alors que récemment, ce pasteur qui observait cette situation était de nouveau dans la même église avec le même pasteur. Et lorsqu'on a mis les guitares par terre, le pasteur, toujours le même, a dit « C'était super ce moment de culte ». Dans la même église, 15 ans d'écart, 15 ans de différence, la question du style a laissé une situation dans certaines églises où il y a des cultes séparés. Un culte traditionnel à 8h30, un culte contemporain à 11h. Et j'ai visité certaines églises des personnes qui sont dans ma classe aux États-Unis où je fais des études. Et c'est très intéressant de voir. Donc, presbytérien, méthodiste, plusieurs cultes différents. Parfois, mais avec les mêmes pasteurs qui tournent, mais c'est simplement une question de musique, question de style. Les deux camps, donc contemporain et traditionnel, les deux camps prétendent être fondés sur la Bible. Carson, Don Carson, canadien, théologien, parle de la tentation de lire nos idées, nos expériences de culte dans l'Écriture pour aboutir à trouver avec confiance dans l'Écriture ce que nous savons devoir y être. Sur cette question contemporaine, l'auteur Marv Haddon, que nous venons de voir, pose la question sur le sens du contemporain. S'agit-il d'un nouvel ordre de culte toutes les semaines? S'agit-il de jeter le recueil de cantiques, de s'inscrire pour le droit de projeter des chants, d'utiliser un instrument plus qu'un autre, ou de prêter attention à une nouvelle musique globale, de demander aux poètes et compositeurs de produire de nouvelles œuvres musicales. Bah oui, il y a la musique classique contemporaine aussi. Nouvelle musique classique qui est également contemporaine, ou d'apprendre des nouvelles connaissances pour accompagner la musique. Qu'est-ce que ça veut dire être contemporain? Et également aux États-Unis, on était arrivé au culte combiné. En anglais, c'est blended worship. Et j'ai assisté donc aussi à des, voilà, à, peut-être si le traditionnel est à 8h30, le blended, donc le combiné, c'est à 9h30. Contemporain peut-être à 11h, etc. Donc, revenons où, quel est le but du culte? Laissons à côté cette question de style de musique. On va en parler un tout petit peu plus la semaine prochaine. Est-ce que le culte est pour Dieu? Est-ce que le culte est tout d'abord pour moi? Est-ce qu'il est pour l'Église? Est-ce que le culte est un style de vie ou la vie d'adoration, d'adorer Dieu? Est-ce qu'il s'agit d'un style de vie? Et si oui, un style de vie individuel ou communautaire? Que dit la Bible sur le culte? Un écrivain a dit, plutôt qu'un sujet périphérique, comme pensent certains chrétiens, le culte est lié à toutes les questions importantes de la théologie biblique, telles que la création, le péché, l'alliance, la rédemption, le peuple de Dieu et l'espoir futur. Donc quelque chose qui englobe beaucoup de choses, pas simplement donc, une partie de la Bible ou simplement la rédemption par exemple. Bon, maintenant ce qu'on va faire, donc comme je vous ai dit, on va se diviser en petits groupes et je vais donc... J'avais calculé qu'on pouvait être 3 groupes, parce qu'on allait être 12, 12 et on est 13, c'est très bien. Donc on va avoir 3 groupes de 4 et dans un groupe il y en aura 5. Et je vais donc, alors le but il est ceci. Je vais donner donc à un groupe de regarder la définition du culte, un autre louange, un autre adoration. Et dans 10 minutes, vous allez ensemble arriver à une définition. C'est très simple, n'est-ce pas? Arriver à une définition, donc, du mot que vous avez reçu. Alors, si vous êtes tellement brillant et tellement intelligent que dans 3 minutes, c'est fait, alors là, vous passez à un autre. D'accord? Mais ce que j'aimerais, donc, pour le retour, c'est d'avoir un groupe qui a regardé, donc, chacun des, au moins une fois, un des termes différents. Alors, est-ce qu'on peut simplement, je vais vous donner un chiffre, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1. D'accord. Alors, si vous avez gardé votre chiffre, quelqu'un a oublié déjà? Parce que moi, j'ai déjà oublié. Donc, les 1, est-ce que... Ah, c'est vrai, je n'y avais pas pensé, je l'ai mentionné à Jean-Paul. Est-ce que les 1... peuvent peut-être se voir ici, voilà, les 2 au milieu, peut-être plus vers le fond, et les 3 de ce côté devant. Donc si vous mettez déjà dans votre groupe, peut-être à ce côté-là, donc les 3, les 2 au milieu au fond, je vais vous donner le mot adoration. D'accord? Donc les 1, vous regardez le mot adoration. Si vous arrivez à une définition et vous êtes tous d'accord, dans 3 minutes, vous passez à un autre. Pour vous, ce sera le culte. D'accord? Culte, le culte. Et pour vous, donc, la louange. Donc, une définition. Voilà. Et vous ne passez pas beaucoup de temps dessus. Vous, si vous pouvez choisir quelqu'un qui va prendre des notes, simplement peut-être des mots-clés. Et après, vous arrivez donc à essayer de... mettre un verbe à côté, point virgule, et puis voilà, une définition. Donc 10 minutes. Je vais commencer avec vous, si vous avez donc quelque chose sur le culte. Restez où vous êtes, juste pour voilà. Et même si vous avez pas, si vous n'êtes pas arrivé à écrire quelque chose, donc vous avez des idées, vous pouvez de manière orale mettre un petit peu le contenu de... vos discussions ensemble, ce sera très bien. On va commencer avec le le culte, le groupe qui a regardé le culte. Ça c'est pas mal pour si peu de temps. Très bien, ok. Le groupe Louange, oui, parce que c'est le deuxième sur la... Et le troisième groupe, c'était le groupe 1. Est-ce que vous auriez préféré un de ces autres termes? Non, c'est une question que je pose, peut-être à tous les groupes. Est-ce que vous auriez préféré le terme d'un autre groupe? Au début, est-ce que ça, c'était un peu difficile à... Non? Très bien. Merci. Je vois que le temps avance. Donc, j'aimerais bien que on se regroupe là où on était donc assis tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous avais donné le terme Trinité, si la tâche aurait été beaucoup plus facile. Trois personnes, vous auriez peut-être arrivé à une définition beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas. Vous pouvez. C'est une question parfois justement lorsqu'on arrive à ces termes. Donc c'est un petit peu plus différent, un peu plus difficile. Vous auriez certainement, peut-être certains dans le groupe, avaient d'autres idées que vous avez peut-être mentionnées, ou si c'était vous tout seul, vous auriez écrit peut-être une autre définition. Alors, le mot, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon. Tout d'abord, pardon, j'avais juste une citation d'un de mes professeurs qui s'appelle Andrew Hill. Il a dit que définir le culte comme dialogue entre Dieu et son peuple, par exemple, quelques-uns parlent du dialogue, si c'est que ça, c'est suggérer que le Créateur et ses créatures sont égaux. Le culte dans les deux testaments était beaucoup plus qu'un dialogue, et dans la plupart des cas, il avait plus à faire à des actions que des paroles. Alors, juste pour regarder donc rapidement le vocabulaire, le mot culte, donc, cultus provient de colere, c'est pas colère, cultiver, pratiquer, honorer, désigne en français les célébrations liturgiques de toutes les religions, aussi bien non chrétiennes que chrétiennes. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, culte, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'en anglais on a ce problème, donc peut-être plus que vous, parce que vous avez les trois mots, worship, donc qui est culte et tout, on part parfois dans certains milieux, donc maintenant on va faire le worship, okay, comme si c'est quelque chose, donc un substantif. Alors que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il s'agit d'un verbe, on pourrait dire peut-être adorer Dieu. Tout d'abord, donc, il y a un mot hébreu qui veut dire se prosterner. Se prosterner, j'ai beaucoup plus de références si vous voulez après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve le même mot, donc, qui était employé également dans la Septante, donc, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, également pour traduire le même mot, et on le trouve également dans le Nouveau Testament, ce qui veut dire, donc, s'agenouiller devant. Le culte comme un service, donc en anglais, on parle également du service, donc worship service. Le culte comme service, c'est également pareil en allemand, avec Gottesdienst. Dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament, on a ce mot avad, qui, le culte israélite englobe tous les peuples, car les nations sont appelées à venir sous l'Alliance et servir le Seigneur dans le culte. Donc, encore une fois, c'est une action de servir Dieu. Servir. Voilà. Et également, dans le Nouveau Testament, on voit le même mot qui est employé également dans la Septante pour traduire avad, donc notre mot qui veut dire servir. Et encore une fois, pardon, j'ai fait ça tout à l'heure aujourd'hui. M'excuse. Donc, pour traduire, qui appliquait donc au service du culte des prêtres. Dans le Nouveau Testament, ce mot fait référence au service du Seigneur par une vie dévouée et droite. Mais peut aussi faire référence plus spécifiquement au culte. Paul déclare que l'Église est la vraie circoncision, le peuple fidèle à l'Alliance, qui rend un culte à Dieu par son esprit et met toute sa fierté en Jésus-Christ. L'auteur aux Hébreux met le terme dans un contexte de culte lorsqu'il exhorte ses lecteurs à être donc reconnaissants et de servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Dans le Nouveau Testament, on a également donc un mot « liturgia », racine du mot français « liturgie », qui fait référence au service, au ministère des prêtres, vu dans l'Évangile de Luc, également dans l'Épître aux Hébreux. Et c'est utilisé également pour le ministère commun de l'Église, pour le Seigneur, dans les Actes, mais aussi au service chrétien en général, dans l'Épître aux Romains, etc., comme un acte de dévouement sacrificiel envers Dieu et envers les croyants. On trouve également ce terme qui est peut-être un peu plus connu, koinonia, qui parle de la communion fraternelle, la participation. Communion fraternelle, également l'idée de partenariat, donc quelque chose qui se vit pas simplement de manière verticale avec son Dieu, mais également au niveau donc, communautaire, horizontal. Ce soir, alors, comment est-ce que nous allons donc faire notre survol de la Bible? On va tout d'abord regarder la personne qui était l'objet du culte dans la Bible, la relation qui en provient. Ensuite, quels étaient les lieux sacrés? Alors ça, je vais donc employer ce mot juste pour dire, est-ce qu'il y avait des lieux que Dieu a appelés saints? Est-ce qu'il y avait des actes que Dieu avait appelés saints? Est-ce qu'il a exigé certains actes pour justement lui rendre ce culte? Est-ce qu'il y avait un temps qui était mis à part, un temps saint? Et puis, juste pour terminer, donc, comment savoir si notre culte est accepté par Dieu ou pas? Donc, premièrement, qui est l'objet du culte? Alors, dans l'Ancien Testament, peut-être une histoire qui est c'est importante pour notre étude, c'est comment Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, donc, je suis celui qui est, qui était et qui viendra. Dieu s'est révélé, donc, avec son nom intime, l'intime de Dieu, qui exprimait son caractère dynamique tel qu'il est révélé dans l'histoire. Un nom saint, à part, dans la présence de qui on enlève ses sandales. Et encore aujourd'hui, peut-être vous savez que les Juifs s'arrêtent, ils évitent de prononcer ce mot intime de Dieu. J'ai regardé au niveau français, donc apparemment, voilà, certaines façon différente pour les Juifs aujourd'hui même d'écrire le mot Dieu. Lorsqu'on voit le mot Yahvé dans l'Ancien Testament, bien sûr, on l'évite et on dit Adonai à la place. Un nom donc qui est saint. Et là où on rencontre Dieu, le lieu même devient un lieu saint, un lieu à part. On trouve également donc Hachem, le nom tout simplement. On appelle Dieu Hachem. Et on voit un écho un petit peu dans Philippiens 2, lorsqu'on parle du nom qui est au-dessus de tout nom que Dieu donne à son fils Jésus. Un nom tellement saint qu'on a évité justement de le prononcer. En s'appelant le Dieu d'Abraham, après, d'Isaac et de Jacob, Dieu s'identifie avec le peuple qu'il a choisi. Le culte, donc, dans l'Ancien Testament, était un culte rendu à un Dieu connu. David dit dans le psaume 100, « Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. » Ceux qui l'adorent ou ceux qui l'adoraient ont par la suite appelé Dieu par ses attributs comme signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. Bon, cela, c'est ce qu'avait dit Abraham avec le bélier lorsque Dieu a pourvu le bélier à la place d'Isaac. Adonai Nissi, Moïse qui avait donc vu la victoire sur les Amalékites, Dieu ma bannière. Le psalmiste l'appelle le Saint d'Israël ou le Berger d'Israël. On passe dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on voit qui est l'objet du culte? C'est intéressant que les églises, est-ce qu'ils ont, de poser la question, il est intéressant de poser la question, est-ce que l'église ont adoré Jésus en tant que Messie au même plan que Yahvé? En tout cas, le titre Seigneur, au Kurios, est le terme qui traduit le nom divin dans la version grecque de l'Ancien Testament, employé dans la diaspora juive. Et on a donné un titre à Jésus dans la proclamation apostolique, dans la résurrection de la mort, Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Mais le culte reste, le culte pour Dieu reste dans le Nouveau Testament, le culte pour Dieu le Père, par le Fils. Jésus a prié au Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Le culte dans l'Ancien Testament se vit dans le contexte de la relation. Donc ce Dieu qui s'est identifié par ce nom intime va maintenant commencer une relation avec son peuple par le moyen de l'Alliance. Nous pouvons adorer Dieu parce que c'est lui qui nous invite à le faire. Ce n'était pas Abraham qui est allé chercher Dieu pour dire « J'aimerais bien déménager, j'ai entendu que tu existes, est-ce que tu peux m'aider ?» C'est Dieu qui s'est intéressé à Abraham, qui s'est révélé à Abraham. Et donc, le culte qui était rendu par Abraham après, c'était en réponse à l'invitation. La formule donc de l'Alliance est une définition fondamentale dans la relation entre Dieu et Israël. En réponse à sa protection et sa bénédiction, le peuple d'Israël doit lui rendre sa loyauté et son obéissance entière. Le culte et l'adoration de Dieu dans l'Ancien Testament se trouvent dans le contexte de sa relation d'alliance avec Israël. L'idée de l'alliance est présente dès Abraham avec l'Éternel qui établit son alliance. En vertu de cette alliance, dit Dieu, en Genèse 17, « Je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Dieu donc a appelé Abraham et ses descendants à le suivre de manière exclusive. Pour notre étude ce soir, notre point de départ sera donc le récit dans le désert, la première fois que le culte devient quelque chose de formel dans l'Ancien Testament. Nous pouvons adorer Dieu parce que c'est lui qui nous invite à le faire. On voit ce modèle de révélation-réponse à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël ayant répondu aux actes puissants de Dieu en Égypte et à sa délivrance de leur communauté de l'esclavage, de la mort à la mer Rouge, par la louange. Il commençait une nouvelle étape dans sa relation avec ce Dieu à la montagne de Dieu. Exode 19, Dieu dit « Vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens, comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. » Maintenant, si vous m'obéissez, si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Dieu donc a agi dans la libération de son peuple, l'a fait sortir de l'esclavage à la liberté pour lui rendre un culte. C'est Dieu donc qui inaugure le culte et en prend l'initiative. Il s'agit du mouvement de Dieu envers l'homme et non pas l'inverse, lorsque Dieu se révèle. Dieu s'est révélé au peuple d'Israël et ensuite a demandé une réponse. Dans ce cadre, le peuple d'Israël apprend ses chemins, plaide allégeance à lui et lui répond dans le culte. Nous pouvons voir également ce mode de révélation, réponse à travers l'Ancien Testament. Selon Ron Mann, un commentateur, l'ordre de ces éléments, révélation, réponse, est significatif, car il part de l'initiative que prend Dieu. Il se donne beaucoup de mal pour assurer une relation avec ceux qu'il choisit. Il invite Abraham à regarder les étoiles et lui promet de faire de lui le père d'une grande nation et ensuite l'invite à le suivre. Il a invité le peuple d'Israël à vivre la délivrance en Égypte et pendant l'exode de l'Égypte et ensuite les a conduits au mont Sinaï pour lui rendre un culte. Lorsqu'on parle des 10 commandements, on passe parfois assez rapidement par le début. Et là, dans ce qu'on appelle le décalogue, donc les 10 commandements, commencent avec le désir de la part de Dieu d'être le seul objet et le centre de notre adoration. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Peterson, dans un livre qui s'appelle « Engaging with God », mais qui a été traduit il y a 5 ans par Christophe Payat, qui est un ancien ami qui enseigne la théologie pratique à Vaux-sur-Seine. Il l'a traduit, ça s'appelle maintenant « En esprit et en vérité » par Exelsis. Moi, malheureusement, je n'ai pas encore vu cette traduction, donc j'ai traduit moi-même. Peterson dit « Dans la Bible, l'adoration acceptable veut dire s'approcher d'eux ou s'engager à Dieu dans les termes qu'il propose. et à la manière qu'il rend possible. Cela implique l'honneur, le service et le respect envers lui, abandonnant autre loyauté ou dévotion qui empêche une relation exclusive avec lui. Dans la pratique, donc, comment permettons-nous à Dieu de se révéler dans le culte? Si Dieu veut se révéler, qu'est-ce que nous pouvons faire pour le laisser, pour lui permettre de se révéler? Quelle importance est-ce que nous attachons, par exemple, à la lecture de la parole, au message, au silence, au symbole, symbolique? Dieu est l'initiateur, c'est son idée. Peut-être parfois nous attachons un peu trop d'importance à ce que nous offrons à Dieu en premier. Est-il évident dans nos cultes qu'il est l'objet de notre adoration? Ou est-ce que nous avons d'autres désirs, un autre projet? Est-ce qu'au niveau des chants, on choisit des chants qui commencent avec lui plutôt qu'avec nous? Ou est-ce que le culte a eu lieu? Donc on va passer de la personne au culte, c'est normalement la lettre B. Moïse décrit le Créateur dans la Genèse en train de marcher dans le jardin, en recherche de la communion avec l'humanité. Et alors que cette présence divine a été perdue pour Adam et Ève, la Bible note l'histoire du rétablissement de cette présence de formes différentes et le rétablissement final dans l'Apocalypse. Les patriarches avaient ce qu'on pouvait appeler des rencontres informelles avec Dieu, à certaines étapes dans leur parcours. La présence particulière de Dieu, où Dieu apparaît de manière inattendue, était une raison pour marquer cet endroit, cet événement. Par la suite, ils ont documenté et enseigné ce que Dieu avait fait là. À Hébron, par exemple, Abraham a construit le premier autel à Yahvé, en reconnaissance pour la promesse d'un pays. Ou encore après la délivrance d'Isaac, un bélier était offert à sa place. Un commentateur, Freitheim, note qu'avec l'arrivée du tabernacle, nous passons de l'apparence occasionnelle de Dieu à sa présence continue dans la communauté. Dieu a demandé à Moïse de le construire, mais a également donné des instructions spécifiques pour chaque détail. C'est Dieu qui nomme deux hommes pour être les managers du projet de construction. Exode 31. Le tabernacle était appelé la tente de la rencontre où Dieu convoquait son peuple. Il y avait une hiérarchie d'accessibilité du camp extérieur vers le lieu très saint. Des pièces de meubles symboliques, le coffre de l'Alliance, le pain qui représentait la présence de Dieu, la menorah, l'autel des parfums, de l'encens, l'autel des holocaustes. Passant du périmètre extérieur vers le lieu très saint, on passait des matériaux moins précieux aux plus précieux, du bronze à l'argent, à l'or et encore à l'or fin. Ceci nous enseigne quelque chose de la signification pour le peuple d'Israël d'avoir cette illustration quotidienne sur la transcendance de Dieu. Hill, le commentateur, l'appelle un signe et symbolique et symbole pédagogique, pardon, signe et symbole pédagogique pour inspirer le culte et pour transmettre la formation théologique pour le peuple de Dieu. La tension entre l'immanence et la transcendance de Dieu se voit dans les limites que Dieu a imposées au mont Sinaï pour s'approcher de lui. Pourtant, il s'agit pas que Dieu soit transcendant ou immanent, mais qu'il est transcendant et pourtant immanent. Donc tout autre, mais également tout proche. La structure physique des édifices était simplement un moyen de faciliter la rencontre entre les divins et l'humain. Le tabernacle et le temple mettaient l'accent sur l'importance de la préparation de l'adorateur et de la congrégation. Il souligne que les prescriptions bibliques précises et détaillées pour la construction du temple et pour le culte dans l'Ancien Testament nous indiquent que les Hébreux devaient adorer Dieu dans les termes qu'ils proposent. lié à l'aspect visuel du culte et à le domaine du symbolisme. Le temple à Jérusalem était plein de symbolisme, non pas uniquement comme décor, mais comme moyen de recréer l'histoire. Le coffre de l'Alliance, l'objet du culte central, placé dans sa demi-obscurité, représentait le trône du roi invisible, Yahvé. L'autel des parfums, installé devant le lieu très saint, a de manière continue dégagé une odeur de fumée pour recréer la théophanie, c'est lorsque Dieu parle, pour recréer la théophanie du Sinaï, où Yahvé était apparu sous une nuée dense. Quelque chose de l'imagination du temple est rendu par les psalmistes qui écrivent que l'Éternel a son trône entre les chérubins. Ou encore, splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Qu'est-ce qu'on peut apprendre alors pour le culte chrétien de cette étude des sanctuaires de l'Ancien Testament ? L'importante pour le culte chrétien pour plusieurs raisons. Le but de la tente et du temple était de permettre à Dieu de demeurer parmi son peuple. Leur structure physique était simplement un moyen de faciliter la rencontre entre le divin et l'humain. Le design et la construction de ces édifices, tabernacle et temple, étaient les vêtements et le service du sacerdoce, avec la liturgie du culte, servaient à souligner la présence et le caractère de Dieu. Pour il, la disposition des meubles et le bon ordre menaient l'adorateur par une séquence d'expériences aboutissant à la rencontre proche avec Dieu. Ce qui est évident lorsqu'on observe les deux sanctuaires est la nature participative de l'expérience du culte hébreu. On devait participer à beaucoup, beaucoup de choses différentes. La liturgie dédiée à Yahvé a engagé la personne entière des adorateurs, l'esprit, les émotions et le corps. La question de la participation est importante parce que dans quelques cultures ecclésiales, dans quelques conceptions de cultes différents, on observe aujourd'hui un détachement de la congrégation alors qu'elle attend de manière passive à regarder quelque chose se produire sur l'estrade pendant la durée du culte. Robert Weber, qui a commencé donc l'école où je fais mes études, réclame la restauration de l'engagement d'une congrégation dans le culte d'une communauté d'église. Il a dit, si le culte est une action faite par la congrégation entière et est rendue à Dieu comme un acte commun, alors il faut prêter plus d'attention à la participation de la congrégation entière dans le culte. Il suggère que les sanctuaires de l'Ancien Testament occupaient le point de mire dans la vie des Hébreux anciens, de manière spatiale, artistique, religieuse et sociale. La réalité de Dieu qui demeurait avec son peuple à l'époque de l'Ancien Testament nécessitait un code de l'Alliance qui a mis l'accent sur la pureté spirituelle et morale et la sainteté dans tous les aspects de la vie quotidienne. Comme dit Robert Weber, le culte n'est pas un aspect isolé de la vie chrétienne, mais le centre duquel on comprend et qui mène la vie entière. On va passer donc au contenu. Quelles étaient les actions, les actes sacrés? On va réfléchir un petit peu beaucoup plus de manière pratique dans le prochain séminaire. Il faut se rappeler, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'il faut mettre dans un culte pour que ce soit un culte. Il faut se rappeler que l'Ancien Testament couvre une période très longue, de presque 2000 ans. Donc lorsqu'on regarde la Bible, on dit qu'est-ce que c'est le culte selon la Bible, à quelle époque, ou avec qui, selon quel auteur. Donc la Bible, l'Ancien Testament couvre 2000 ans de l'histoire hébraïque, et donc ce que nous lisons dans la Bible provient de plusieurs périodes. Il n'y a pas de distinction dans la Bible entre les actions spontanées du culte privé et les formes structurées du culte public. Selon Robert Weber, le culte est la récitation dramatique de la relation entre Dieu et nous-mêmes. Mais il s'agit également d'une rencontre personnelle avec Dieu. Par la récitation et le rite, on met en scène notre adoration. Tout d'abord, la réponse liturgique. Alors, pour ceux d'entre nous qui venons donc d'un arrière-plan d'église type libre, indépendant, la question de liturgie, ça fait un petit peu peur. En regardant le dictionnaire me dit « La liturgie est la structure et séquence d'événements et d'actions d'un culte en particulier. » Mais donc, dans la Bible, nous voyons que la congrégation a fait des récits. Il y avait la récitation de la congrégation. Par exemple, après le cantique qui célébrait l'entrée du coffre de l'Alliance à Jérusalem. « Loué soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité. » Et que le peuple entier réponde « Amen ». Et puis encore « Louange à l'Éternel ». Et tout le peuple a dit « Amen ». Ces réponses liturgiques étaient parfois chantées, créées en forme de litanie, comme au psaume 136. Dans les cérémonies de renouveau de l'Alliance, nous voyons des litanies de prière envers Dieu. Nous voyons également des credos, confessions de foi. Il y avait le chant, et je vais passer assez rapidement dessus, j'ai beaucoup plus de notes supplémentaires si vous le voulez. Le chant était quand même un élément vital du culte hébraïque. Il y avait des chanteurs et musiciens, surtout au temple. Le chant était la réponse favorite du culte hébraïque, soit à l'unisson ou sous forme de répons par la congrégation, ou par les chorales du temple et des musiciens. C'était bon pour le peuple de Dieu de chanter des louanges à Dieu, psaume 92. Il y avait 5 types de chants différents, et je vais passer au-dessus, je peux vous envoyer donc la liste après. Il y avait également la lecture biblique, la lecture de la Torah. Et souvenons-nous que pour l'Église du Nouveau Testament, ils avaient donc la Torah et quelques lettres d'ici à droite, mais pas la Bible, en tout cas pas le Nouveau Testament. La lecture publique de la Torah a commencé au mont Sinaï, en Exode 24. Le but était la récitation de l'histoire et des actes rédempteurs de Dieu. Pour les Israélites, le don de la loi était une raison pour une joyeuse célébration. Vu comme une source de joie et de vie, le Torah était la manière dont Yahvé, dont Dieu, exprimait son amour pour son peuple. La récitation de l'histoire des actes rédempteurs de Yahvé constitue la base du credo, de la liturgie et de la prédication de l'Ancien Testament. Nous voyons dans les évangiles que, avec l'histoire du Christ, qu'il lit l'écriture dans la synagogue. Et il est quasiment impossible de supposer que les églises du Nouveau Testament n'ont pas inclus des lectures de l'Ancien Testament dans leur culte communautaire. Le fait qu'il y avait des sermons soutient cela. Vous vous souvenez le fait que de l'histoire du jeune homme à Troas qui... Peut-être comme certains d'entre vous étaient un petit peu fatigués, écoutaient Paul et tombaient par la fenêtre. On écoutait la lecture de la parole. Chacun n'est pas venu au culte avec son Louis II ou sa Bible du semeur. Il n'y avait pas d'imprimante. Donc on écoutait, c'est une tradition beaucoup plus orale. Pour notre étude, les psaumes sont un des trésors liturgiques le plus riches. Les psaumes fournissent un ensemble de discours pour notre communion avec Dieu. De la même manière qu'un enfant apprend à dire « merci », « je suis désolé » ou « au secours », les psaumes représentent un porte-parole dans les contextes émotionnels différents. John Whitfield, donc, qui travaille au Calvin Institute for Worship, a dit que la gamme entière de l'émotion humaine trouve son écho dans les psaumes. Du regret abattu à la joie extatique, de la culpabilité à la reconnaissance profonde. Les psaumes, il a continué, ne nous enseignent pas simplement des choses sur Dieu, mais nous aident à vivre notre relation avec Dieu. Ce sont des paroles déjà faites, prêtes à entrer directement dans notre bouche, et nous amènent à une rencontre réelle avec Dieu. Par ces paroles, nous nous trouvons parler avec le Dieu vivant, parfois un langage que nous n'aurions jamais imaginé pour y sortir de notre bouche vers Dieu. Calvin les a appelés l'anatomie de l'âme. Michael Card, un compositeur et chanteur bien connu qui était à Vevey il y a quelques mois, a dit « Par les psaumes de lamentation, plus que n'importe où ailleurs dans les Écritures, David révèle un Dieu qui se sert de tout, surtout de la douleur. Ou un autre grand théologien, Bono du groupe U2, a dit « Dans les psaumes, les idées riment plutôt que les paroles. » Graham Kendrick, encore Kendrick, donc, qui est très bien connu dans le milieu anglophone, qui a écrit beaucoup de chants dans les années 70-80, un compositeur et chanteur, au mois de septembre 2008, à l'Institut biblique de Londres, à une conférence où j'étais, a posé la question « Est-ce que nous équipons les paroissiens à mener une vie d'adoration pour qu'ils viennent au culte en adorant Dieu ?» Est-ce que nous équipons les paroissiens à mener une vie d'adoration pour qu'ils viennent au culte en adorant Dieu, plutôt que venir au culte pour adorer Dieu? Quel usage des psaumes dans le culte? Nous allons en parler un petit peu dans le séminaire, dans le troisième séminaire. Le sacrifice. On a déjà vu le tabernacle. Hein, j'ai oublié que j'ai fait ça il y a longtemps. Les instructions pour le tabernacle ont montré que Dieu s'intéressait beaucoup à la manière dont on devait l'adorer. On a déjà vu. L'Ola, donc l'Holocauste, l'adorateur s'est identifié avec celui qui devait mourir à sa place dans l'action de mettre la main sur l'animal. L'adorateur a tué l'animal et le prêtre, qui représentait la présence de Dieu, a pris le sang et l'a aspergé sur les côtés de l'autel, dans la partie commune. L'animal a été placé entièrement sur l'autel et a été calciné. La fumée montait comme un parfum à Yahvé. Depuis la chute, aucun homme n'avait droit à s'approcher de la présence intime de Dieu sans offrir un animal en sacrifice. La confession du péché était liée au rite de l'expiation pour le péché et pour la culpabilité, suggérant que le rite n'avait pas de sens sans la repentance. En fait, le judaïsme voyait le sacrifice du non-repenti comme une abomination à l'Éternel. Lorsque Esdras a lu la Torah, tout le peuple a pleuré et s'est présenté pour confesser ses péchés et ceux de ses ancêtres, selon Néhémie 8, verset 9. Dans le Nouveau Testament, l'auteur du livre aux Hébreux nous encourage à nous approcher du trône de Dieu qui nous accordera sa bonté et sa miséricorde. Les psaumes nous montrent que le culte doit inclure la reconnaissance du péché. Les prières de confession expriment une vérité théologique. L'humanité est déchue et a besoin de la rédemption. La reconnaissance de la sainteté de Dieu a mené le psalmiste à la confession du péché et à la repentance. La prière. L'Ancien Testament parle de moments spécifiques pour la prière. Les psaumes parlent des fidèles qui prient le matin, même avant l'aube. On trouve des prières de lamentation le matin, le midi et le soir. Des prières de lamentation. La structure de la prière était influencée par la liturgie des sacrifices du temple. Comme Paul a encouragé les chrétiens à prier sans cesse, le psalmiste a évoqué la prière continue. Pour l'Église primitive, la prière d'intercession était un élément composant du culte. On voit également la prière dans le contexte de la réjouissance et la reconnaissance. Dans le culte, il y a aussi une place pour la confession de péché. Je vais passer rapidement dessus. Dans l'Ancien Testament, on trouve encore d'autres actions cultuelles. Vous pouvez voir dans les notes supplémentaires, si vous voulez, la méditation parlée, la dîme, la purification, la danse, les vœux, la confession de foi, surtout dans le schéma de Deutéronome 6, verset 4, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, prière hébreu qui était dit trois fois par jour, écoute Israël, notre Dieu est un Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'assemblée s'est réunie dans les foyers. Pour célébrer la résurrection, la congrégation se réunissait le jour du Seigneur, premier jour de la semaine. Le culte chrétien se concentrait sur le repas du Seigneur et inclut le chant des cantiques, la prière, la reconnaissance verbale et l'instruction. Je vais passer au-dessus peut-être de la scène. Oui, on va en parler une autre fois. J'aimerais juste lire un texte du Nouveau Testament, Éphésiens 5. La richesse des textes de l'Ancien Testament sur les actions dans le culte contraste un petit peu avec celle bien inférieure des textes du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est beaucoup plus court. Mais regardons donc ce texte. « Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute autre chose, vous remercieriez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. » Ces versets donnent une petite idée de la pratique du Nouveau Testament. Il est intéressant de noter que la place du chant dans le culte n'est pas isolée de la reconnaissance ni de la personne que nous voulons adorer. La mention de cantiques, psaumes et hymnes, selon des commentateurs, sont plutôt des synonymes. Ce qui est aussi intéressant, c'est la mention de l'aspect de la soumission les uns aux autres dans la communauté sous le Christ. Je vais plutôt vous donner ça en l'Apocalypse, et encore une fois, comme les psaumes, donc une partie très riche de la Bible en ce qui concerne donc l'adoration, la louange, le culte qui se fait maintenant, qui se joue au ciel, dans la présence réelle et immédiate de Dieu. Alors, quelques principes. Donc, dans ce que nous avons vu dans la Bible, l'adorateur doit se préparer pour le culte communautaire. Le culte privé et familial sont un complément au culte public communautaire. Le culte exige des réponses de la personne entière à Dieu. La communication non verbale est importante à notre dialogue avec Dieu. Le culte est directement lié aux actes rédempteurs de Dieu dans l'histoire humaine. Le symbolisme est important au culte. Observer un calendrier liturgique peut améliorer notre culte au niveau de l'anticipation et de la participation. Un style de vie d'obéissance dans le service à Dieu complète l'intégrité de notre culte. Question : est-ce que le culte plaisait toujours à Dieu dans l'Ancien Testament ? On a déjà vu dans l'exemple du tabernacle et du temple comment Dieu attachait beaucoup d'importance à la manière dont on l'adorait. On trouve d'autres exemples chez les prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour annoncer à Israël justement que leur culte ne plaisait pas à Dieu. Vous pouvez citer le prophète Isaïe, « Et si ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. La vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. » Plus fort encore, Osée chapitre 4, ils ont abandonné l'Éternel pour s'adonner à la prostitution ainsi qu'au vin. Alors le vin nouveau leur a fait perdre la raison. Ce sont ces dieux de bois que mon peuple consulte. Et voilà que son bâton qui lui répond, car un vent de prostitution les fait errer. Ils s'égarent loin de leur dieu en se prostituant. Ils vont offrir des sacrifices au sommet des montagnes et brûler des parfums sur les collines, sous le chêne et le peuplier et sous le térébinthe, dont l'ombrage est si doux. Le peuple d'Israël avait laissé infiltrer dans leur culte les pratiques rituelles d'autres dieux. Il avait critiqué les techniques de culte qui consistent à consulter un faux dieu. Le peuple consultait les morceaux de bois comme oracle. Le peuple choisi qui connaissait l'histoire de l'Alliance l'avait déserté et était si impliqué dans le culte d'Achéra, le dieu de la fertilité, qu'ils n'étaient plus capables de réfléchir pour eux-mêmes et avaient abandonné Dieu. Ils étaient très religieux et engagés dans le culte, mais le centre de leur intérêt était ailleurs. Ils avaient abandonné l'amour du vrai Dieu qui avait fait alliance avec eux. Ceci est un texte utile pour montrer que Dieu ne veut pas être adoré dans un contexte où d'autres choses sont le foyer de notre intérêt et où nos pratiques sont devenues mélangées avec d'autres objets que lui. Je vais passer au-dessus de ce qu'on le culte a eu lieu parce que justement on va en parler dans la quatrième soirée. Voilà. Où est passé Jésus? Le fait que Jésus est notre grand prêtre est une idée du Nouveau Testament qui est enracinée dans l'histoire entière des actes rédempteurs de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que la mort du Christ était le sacrifice ultime. Employant des termes semblables à ceux de l'Ancienne Alliance, l'auteur parle de Jésus comme notre sacrifice pour le péché et pour la réparation. Crucifié à la Pâque, Jésus est la personnification de l'agneau pascal. l'agneau pur, le sacrifice dans l'encens monté comme un doux parfum. La lumière du système sacrificiel en parle du rôle de Jésus qui est à la fois prêtre et sacrifice. L'auteur de l'Épître aux Hébreux contraste ce sacrifice une fois pour toutes avec les offrandes répétées dans la pratique cultuelle de l'Ancien Testament. Le ministère de Jésus est supérieur parce qu'il s'est offert lui-même comme sacrifice parfait auprès de Dieu. La nouvelle alliance est supérieure parce qu'elle est fondée sur de meilleures promesses. Une nouvelle alliance a commencé avec Jésus. Le Christ a pu traiter notre péché d'une manière que l'ancienne alliance ne pouvait pas. Mais l'auteur aux Hébreux note que Jésus, en tant que ministre du sanctuaire, est aussi le médiateur de la nouvelle alliance, une alliance supérieure à la première. Mann, un commentateur, souligne que le fil conducteur à travers les cultures et les continents, à travers ou au sein des dénominations, même à travers des siècles, ce fil conducteur est le rôle du Christ ressuscité parmi son peuple, qui dirige leur culte, l'adoration. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, « Car Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit à Dieu, « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. » Selon Mann, le Christ n'a pas uniquement ouvert le chemin pour nous permettre d'entrer dans la présence du Père, il ne nous montre pas simplement le chemin, mais il nous dirige de manière active dans notre adoration et nous amène vers le trône de Dieu. Le Christ est déjà présent lorsque nous nous rassemblons. Le 8e chapitre nous parle de Jésus qui sert dans le sanctuaire lorsque nous présidons le culte. Il ne s'agit plus de notre ministère, mais nous représentons le Christ. C'est lui qui est à l'œuvre. Il s'agit de son ministère. Il est le prédicateur. Il est le responsable du culte. J'aimerais terminer par la question. Est-ce que notre culte est agréable à Dieu? Comment évaluer nos cultes? Comment, en rentrant à la maison, comment savoir si on a bien fait? Par quels critères est-ce que nous nous posons cette question? On va en parler beaucoup plus dans le prochain séminaire. Mais comment savoir si notre culte est agréable à Dieu? Parfois, nous nous posons la question sur le style dans le culte, le style de musique, une façon de faire des choses. Est-ce qu'on a bien fait? Et pensons juste pour l'instant au débat de quel style de musique, encore une fois, hein, quelque chose que nous allons discuter un peu plus la prochaine fois, ou quel chant pour le culte. Si certains visent un répertoire large, d'autres se concentrent sur l'idée du nouveau chant. Dans le passé, et croyez-moi, cela se reproduit toujours aujourd'hui, certains pensent que la louange dans le culte n'est pas la louange sans un certain instrument, soit l'orgue, soit la guitare, ou soit encore autre chose. Ou que ce n'est pas la louange, donc pas un culte, si on n'a pas le dernier chant de tel ou tel CD, ou à l'inverse, tel ou tel cantique du passé. Quand on dit qu'on n'est pas arrivé à un certain matin, moi j'aimerais poser la question où? Lorsqu'on n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas encore ceci ou cela. Notre critère se base sur quoi? C.S. Lewis a dit « Nous devons faire attention à l'idée naïve que notre musique, par exemple, puisse plaire à Dieu, comme elle plairait à une audience humaine. Ceci équivaut à penser que, sous l'ancienne alliance, Dieu avait vraiment besoin du sang du taureau et du bouc. Il avait répondu « À moi les bêtes par milliers dans les montagnes, et si j'ai faim, je ne te le dirai pas. » Si Dieu, de cette manière, voulait de la musique, il ne nous le dirait pas. Car toutes nos offrandes, soit la musique ou le martyr, sont intrinsèquement comme le cadeau sans valeur d'un enfant, auquel un père attache certainement de la valeur, mais uniquement pour l'intention. Ça, c'est lourd. J'ai dû le lire plusieurs fois. Mais lorsque vous l'avoir chez vous, vous le relisez. De la même façon, on peut dire la même chose sur une certaine façon de prier ou même de prêcher. Un de mes professeurs a dit que dans son institut biblique, un de ses professeurs lui avait dit « La seule chose dont vous pouvez être sûr d'être inspiré par Dieu dans votre culte, même pas le message, c'est la lecture de la parole de Dieu, autrement dit, les mots que dit Dieu, et pas les mots humains. » Bien sûr, on prie pour que Dieu soit présent dans plein d'autres choses et dans nos activités différentes. Qu'est-ce qu'il plaît à Dieu alors? Man a dit, Dieu accepte et se réjouit de notre adoration, de notre culte, non pas à cause de nos efforts, ni de notre capacité artistique, ni même de notre spiritualité, mais à cause de l'offrande continue d'adoration par le Fils à notre place et en notre faveur. Parce que Jésus est accepté par son Père, alors notre culte jouit d'une acceptation parfaite de confiance et d'amour parfait dans l'union avec la tête de l'Église. Rendre un culte, on a essayé de voir une définition tout à l'heure, c'est être satisfait en Dieu, c'est célébrer le Christ de manière communautaire, c'est redire et se souvenir de l'événement du Christ, c'est laisser Dieu parler, et agir dans le culte. C'est être en silence devant lui, c'est répondre à Dieu et à autrui, c'est confesser le péché, c'est lire et méditer sur l'Écriture, c'est offrir des prières d'intercession. Donc c'est beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui ont eu lieu également dans l'Ancien Testament qu'on n'a pas mentionné. Qu'est-ce que c'est le culte? Le culte chrétien, ou l'adoration chrétienne, est la réponse de l'homme à l'appel divin, aux activités puissantes de Dieu, culminant dans l'acte rédempteur du Christ. C'est une définition parmi plein d'autres. Donc oui, le chant est important. Oui, notre lecture est importante, mais il y a beaucoup de choses qui se joignent également au culte communautaire comme au culte privé, à notre style de vie, de beaucoup plus englobant, comme certains d'entre vous avait dit. Voilà, je vais terminer là. Merci d'avoir assisté à ce marathon, quelque part, un survol biblique qui était assez rapide. Je voulais terminer avant 10 heures, je suis arrivé juste avec une minute. Donc, comme j'ai dit, c'était très conséquent ce soir. La prochaine fois, donc beaucoup plus d'échanges et de réfléchir un petit peu. Vous pouvez avoir mes notes, je peux vous les envoyer comme ça. Je sais que ce que j'ai fait, j'aurais pu prendre un de ces thèmes alors que j'en avais 5 et on aurait pu passer une heure dessus. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire juste avant de terminer? Est-ce que vous aimeriez réagir? Alors, le projet, je ne vous ai pas fait l'histoire et je vais vous l'épargner. Le doctorat est un doctorat, plutôt comme un daymine, donc un doctorat de ministère. Donc, il faut un projet, un événement, quelque chose de pratique. Et donc, moi, j'ai opté pour quelques soirées de formation, de regarder un peu globalement plusieurs aspects du culte, de la louange, de l'adoration. Il y a une partie de recherche pour le travail écrit. Et puis, l'autre, c'est un petit peu le contexte de nos soirées. Comment moi j'ai abordé le sujet, comment j'ai invité, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et puis au niveau des questionnaires, un petit peu les thèmes qui sont ressortis. J'ai d'autres personnes dans ma classe, à plein temps dans les églises, qui par exemple regardent l'usage des psaumes dans le culte avec les responsables de leur église ou là où il y a une chorale, qu'est-ce que le rôle du choriste dans l'acte de l'adoration ou dans l'aspect de diriger l'assemblée à adorer Dieu. il y a plein de thèmes différents comme ça. Moi, j'ai simplement j'ai choisi quelque chose de plus général. Et donc, voilà, donc il fallait avoir donc quelque chose de concret, d'un projet donc, pratique. Oui, alors il faut que je puisse évaluer un tout petit peu le projet avant, pendant et après. Et donc c'est pour cela que je voulais donc un questionnaire un petit peu donc neutre et également pour entendre de votre part quelles étaient les préoccupations, si je pouvais soit les aborder donc dans une de ces soirées ou de manière donc plus donc informelle après. Voilà, j'ai posé la question au début, est-ce qu'il s'agit d'un style de vie? Et si oui, est-ce que c'est individuel ou communautaire? Je n'ai pas répondu à la question, justement. Ce que je viens de faire, c'est regarder un petit peu l'aspect de ce qu'on fait justement le dimanche matin au sein de l'Église. Quels sont les éléments dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau qui nous permettent d'essayer de comprendre un petit peu ce que faisaient les chrétiens dans l'Église primitive et donc des principes qu'on peut tirer également de l'Ancien Testament. C'est vrai dans le contexte de la vie d'église, ce qu'on fait dimanche matin, entre guillemets. Mais je ne voulais pas définir le culte de cette façon-là. Je ne voulais pas justement mettre une définition. Je suis d'accord avec toi que c'est beaucoup plus large et ça touche à toute notre vie. Il est vrai que pour notre projet, je voulais un petit peu concentrer sur notre vie d'église et comment nous voyons des choses différentes et les éléments. Par exemple, la prochaine fois, on va regarder qu'est-ce qui est un culte donc communautaire, que devons-nous mettre dedans pour qu'on puisse l'appeler ainsi que les gens qui viennent de l'extérieur ou les gens qui font partie de notre communauté qui sachent que voilà, ça va être différent. Peut-être, on verra. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser. Vous avez mon adresse mail. Si vous me donnez la liberté, je vais peut-être, dans la semaine, juste parler avec une ou deux personnes pour savoir, avoir un petit peu votre retour sur ce soir. Pour y dire que, en fait, j'ai très bien dormi ce mardi soir parce que tu m'as beaucoup aidé à le faire. Ça, c'est donc du retour. D'autres questions, peut-être, qui sont venues, vous avez dit, mais... Je trouvais un tout petit peu dommage parce que tu as rapidement passé par-dessus ça. J'aimerais bien que tu retouches, qu'on parle un tout petit peu plus de ça. Voilà, mais c'est pour m'aider également personnellement. Donc, si vous êtes d'accord que je puisse poser ces questions, ça m'aiderait pour la prochaine. J'ai pas prié au début et j'aimerais bien le faire maintenant. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence avec nous. Tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es déjà là. Merci pour la richesse, Seigneur, de regarder ta parole, de voir comment tu étais présent dans la vie de ton peuple autrefois. Merci, Seigneur, parce que tu es beaucoup plus autre que ce que nous pouvons imaginer. Tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander. Merci que nous pouvons toujours apprendre des choses sur toi. Et tu es immanent, que tu es avec nous, mais que tu es également transcendant, que tu es tout autre. Aide-nous, Seigneur, à être ouverts, à te découvrir toujours de nouvelles façons. Aide-nous dans notre vie quotidienne de te rendre un culte, Seigneur, par nos actes, de toujours être conscient que tu es avec nous chaque jour et à chaque instant, que nous pouvons te servir là où tu nous as amenés, tu nous as placés. Merci de continuer à être avec nous pendant le reste de cette semaine, de nous accompagner également, Seigneur, chez nous ce soir. Que tu puisses être dans nos pensées, mais que nous puissions également être fidèles dans là où tu nous as amis. Merci encore pour ta présence avec nous, au nom de Jésus. Amen.